Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres? Non.
Mais qu'est-ce qu'il y a de différence, cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des bois à l'autre problème.
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur. Hein.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue pour le deuxième numéro de Scène de vie, vie de scène.
Vie de scène, oui.
Comme on disait la dernière fois, c'est une émission qui prend son temps.
Une émission qui prend son temps, le temps de vous parler des sujets. Je suis très heureuse, bonjour aux auditeurs, très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième émission où cette fois-ci nous parlerons de danse, de la danse d'aujourd'hui, dite danse contemporaine. Nous entendrons pour inviter un chorégraphe hongrois, Pál Fronák. Et on aura quelques sons d'ambiance autour d'un montage de spectacle, de danse également. Et puis, pour faire un lien avec notre première émission, où nous avions parlé de Tchekhov et du théâtre russe, je trouvais intéressant de vous parler du théâtre russe aujourd'hui et des nouveaux metteurs en scène, musiciens, comédiens. Voilà, et on terminera l'émission avec les sorties en famille. Voilà, on aura un échange à ce sujet.
Famille et scolaire.
Famille et scolaire, bien sûr.
Les spectacles en direction des enfants.
Direction des enfants, ouais, jeune public.
Eh bien, nous vous proposons tout de suite d'écouter cette ambiance choisie ce mois-ci.
Ce mois-ci.
En fait, le numéro 8, c'est pas une doublette qui part. Il y a deux prises sur le bloc.
Ah mais c'est des doublettes.
Ouais mais c'est des doublettes, c'est boîtier, il y a que deux filles carrées. Tu vois,
pour une... Ah c'est des doublettes là-haut.
Ouais, dans le boîtier, ouais.
Donc ouais.
C'est des fiches doublées.
Et Iris, elle est quoi effectivement?
Elle est quoi?
C'est un switch sur le ton Iris.
C'est en DMX, ouais. C'est en DMX. Je peux peut-être demander à la personne qui connaît bien le vidéo proche quoi, avant de démonter peut-être.
Éventuellement.
Tu vas juste voir.
Qu'est-ce que c'est qu'on a?
C'est un. Ouais.
C'est Data qui le dirige normalement ça? La console?
Parce qu'il y a des vidéos
non,
producteurs qui sont dans le
non, 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 ça c'est au niveau du.
Est-ce qu'il n'y a pas un switch de protection dans les vidéoprojecteurs? Ou non?
Je vais appeler le gars qui connaît bien.
Je suis en train de manœuvrer.
Ah, d'accord.
Ah la vidéo, toujours ça la vidéo. On va dire.
Voilà, donc j'ai laissé traîner mon micro lors du montage technique du spectacle Trace, donc spectacle pour jeune public de danse du chorégraphe Pál Fronák. Et au moment où j'arrivais, ben voilà, on était confronté à l'équipe technique était confrontée à un problème technique sur un rétroprojecteur. Et c'est intéressant, tu as un spectacle qui a été monté, qui se joue là en ce moment pour les enfants et les scolaires et qui se fait à la maison de quartier de la Madeleine. Et pendant que les gars montaient le spectacle, à côté, on avait le cours de danse hip-hop de l'association. Voilà, c'est au milieu d'un lieu de vie.
Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a un jargon technique, c'est ce qu'on entend. Ils nous ont parlé de doublettes, de switch, de DMX, d'un tas de choses comme ça, qui est le jargon du technicien.
Qui est le jargon d'une partie de l'équipe technique, parce que sur un montage de spectacle, il y a la partie technique lumière, son, là en l'occurrence vidéo électrique. Et le problème technique était plutôt un problème électrique et apparemment, de ce que j'ai compris, d'alimentation d'un rétroprojecteur qui est utilisé, parce qu'il y a une diffusion, une projection d'image vidéo pendant le spectacle. Et voilà, donc il y a vraiment un vocabulaire technique spécifique. Mais comme dans le théâtre, c'est quand même un domaine, dans le spectacle vivant ou sur la scène, où il y a des mots et un vocabulaire très particulier qu'on utilise, même entre nous, quand on est sur le plateau, pour les comédiens. Voilà, bon, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine émission, à savoir pourquoi on parle de sur un plateau de côté jardin et côté cour, de lointain, et qu'on dit pas la droite et la gauche. Bon voilà, c'est le spectacle vivant, la scène. C'est aussi son jargon et son vocabulaire.
Dont on a eu un petit extrait lors du montage.
Voilà, un petit extrait donc lors du côté technique. Ouais, vraiment. Mais je trouvais ça intéressant parce que ça montre les aspects, vraiment la dimension qu'on ne connaît pas forcément quand on est spectateur ou quand on rentre dans une salle.
Eh bien aujourd'hui, dans Scène de vie, vie de scène, nous voulions parler de danse contemporaine. Alors la danse contemporaine, on va échanger un petit peu sur le sujet parce que c'est un sujet qui peut faire peur.
Le mot fait peur.
Le mot fait très peur en tout cas. Alors est-ce qu'on peut déjà...
Et
danse de surcroît. Peut-on déjà le définir, Nathalie ? Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce qu'est la danse contemporaine ?
Oui, c'est un... Alors, pourquoi parler de la danse contemporaine ? Parce que aussi l'actualité du mois est pas mal une actualité danse, et donc du coup aussi danse contemporaine, avec Palfrenac sur là dans le département, mais avec aussi Automne en Normandie, il y a le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jallet qui se produisent sur les plateaux de la région. Donc c'était intéressant de parler un petit peu de ce courant. Et la danse contemporaine, mais c'est un courant en danse. Comme on a eu le classique, on a eu le modern jazz, on a la danse africaine, on a le hip-hop, on a les danses de salon. Eh bien, la danse dite contemporaine fait partie d'un mouvement de création et d'expression artistique à travers le corps.
Alors, ce mouvement de danse est pas forcément abordable en image quand on me renvoie danse contemporaine. J'ai France 2 à 2h du matin le dimanche par exemple. Voilà l'image qu'on peut percevoir de la danse contemporaine.
Bah, c'est sûr qu'en plus c'est pas vraiment aussi des spectacles
ou Arte, hein.
Ou Arte, c'est principalement Arte. Arte régulièrement soutient la danse et notamment aussi sur son site internet, sur web Arte, il y a pas mal de spectacles, de vidéos danse qu'on peut voir. Oui, c'est quelque chose de peu familier aussi à tout à chacun dans notre culture, dans notre quotidien. La danse aussi en France, l'expression corporelle, moi je partirais déjà de là. Je pense que chez nous, c'est beaucoup assimilé aux petites filles, au côté féminin, dans cette expression. La danse, on en fait... pas forcément à l'école, on en prend dans des cours, dans des activités vraiment parallèles. Voilà, on est quand même aussi, on est d'une culture où l'expression par le corps est peu habituelle ou familier, on va dire. Je parle comparé à des cultures africaines ou asiatiques où la danse est vraiment intégrée à un mode de vie. Voilà.
Cela dit, il est proposé bien souvent dans les maisons de quartier ou les MJC. Les fameuses danses type afro-jazz, hip-hop. et très peu finalement de danse contemporaine.
Oui, oui, quasi. L'offre d'ailleurs sur le département est très réduite hein, pour une personne qui souhaite faire de la danse.
La danse contemporaine me renvoie moi une image de professionnel. Et puis finalement, la danse loisir reste dans les autres catégories. Alors, est-ce qu'on est proche de la vérité ou pas ?
Eh bien, oui et non. Je vais faire une réponse de Normand. oui et non, parce que en fin de compte, la danse dite contemporaine, en fin de compte, on n'a pas trouvé d'autres mots pour la qualifier. Ça vient quand même aussi d'un mouvement historique qui a voulu casser, justement, aller plus loin que le classique et le modern jazz, où c'était des danses vraiment avec des techniques très particulières. Il y avait une règle à respecter, etc. La danse contemporaine, c'est partir de soi, de son corps et de ses capacités. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander forcément d'aller dans des bars ou dans des mouvements, dans des chassés, etc. C'est vraiment une expression qui se fait en fonction de ce qu'est la personne et de son mode d'expression.
On pourrait l'appeler alors la danse libre. Est-ce qu'on est dans cet esprit ?
Au départ, il y a de ça. Au départ, ça a été vraiment, dans le départ du mouvement, à casser vraiment un carcan dans l'expression technique du corps. C'est-à-dire aller dans libérer une... Parce que une fois qu'on danse, on a envie de bouger, on a envie de dire des choses, voilà, de bouger différemment. C'était vraiment l'idée de bouger différemment au départ. Après, comme dans tout mouvement de danse, ça s'est construit, codifié, et après une certaine technique s'est construite autour de ça. Alors comme c'était une expression qui était finalement très individuelle, voilà, c'est parti de gens qui ont dit, bon voilà, Béjart a été au départ de ce mouvement-là. Comme c'était très propre à chacun, une démarche individuelle en termes de création et d'expression, c'est sûr que, du coup, on l'a dit, mais c'est des gens qui font leur truc dans leur coin, mais qu'est-ce que c'est que ces mouvements-là ? C'est pas habituel, c'était pas quelque chose de connu et d'habituel.
C'est une danse qui pourrait paraître abstraite.
Oui.
On comparait tout à l'heure, quand on s'est retrouvé dans le studio, ouais, à la peinture abstraite par rapport à tout ce qui serait peinture, quoi.
Oui. Et ce qui appelle finalement, qui fait appel beaucoup à l'imaginaire et du coup aux émotions qu'on peut avoir face à un mode d'expression. Alors maintenant, dans les courants de danse contemporaine, il y a aussi différents genres de danse, d'expression. Il y a des chorégraphes qui sont très cérébrales, hein, où ça va passer par la tête, par l'analyse du corps, je regarde, je vais bouger comme ça et pas comme ça. Donc voilà. Et en même temps, il y a d'autres expressions, d'autres chorégraphes pour lesquels c'est véritablement le plaisir de danser, mais de danser différemment. Ça peut avoir des influences hein, dans la danse contemporaine. On peut avoir des influences modern jazz, des influences de danse africaine, on peut avoir des influences de dance street, danse de la rue, on peut avoir des influences aussi de danse asiatique ou tai chi, chi kong, parce que voilà, on se nourrit de cette culture-là. Donc, c'est un parcours avant tout de créateur, une expression artistique qui se fait par le corps.
Et pour conclure sur la danse contemporaine, j'ai remarqué que c'était une des danses qui régulièrement utilisait ce qu'on appelle des accessoires, des décors, plus facilement que de la danse classique ou même des danses plus contemporaines comme la danse hip-hop. Mm-hmm. Et c'est-à-dire qu'il y a de l'accessoire assez facilement.
Mais en fin de compte, c'est dans la danse contemporaine. Dans le ballet classique, c'est une histoire, c'est très narratif. On a un support, on va vous raconter l'histoire de la Belle au bois dormant, de Petrouchka. Donc voilà, c'est narratif. Et donc il y a un décor autour de ça. La danse contemporaine, c'est nous faire entrer dans une thématique, nous faire entrer dans une pensée, parfois aussi une recherche de sensations. Après, c'est propre à la création d'un spectacle et en fonction de ce qu'il veut développer. Je prends l'exemple du spectacle de Sidi Larbi Cherkaoui que j'ai vu, qui est passé dans Automne en Normandie. Et lui, il a travaillé avec des moines Shaolin. Donc vraiment l'expression asiatique, la danse asiatique, et aussi sur pour lui c'était vraiment la notion du cube, du rectangle, et comment on pouvait danser à partir d'une boîte et dans une boîte et avec plusieurs boîtes. Voilà, donc le décor c'était ça. Mais c'est tout à fait variable en fonction de ce que l'artiste a envie de créer. C'est un peu comme un sculpteur qui dit, bah voilà, moi j'ai envie de faire ça, donc je crée autour de ça, j'imagine, je pense autour de ça. Donc c'est extrêmement diversifié.
Très bien, bah en tout cas, on espère avoir un petit peu expliqué, ce qui n'est pas évident d'expliquer la danse contemporaine.
Voilà, non, puis bon, c'est qu'un point de vue. Après, c'est un échange aussi ensemble. Moi, j'apporte mon expérience de spectatrice, de rencontre autour de ça. Après, je pense, dans une émission, ce serait aussi intéressant de faire venir un chorégraphe, vraiment, un danseur. On ne pouvait pas en faire venir un aujourd'hui. Mais voilà, on pourra continuer la discussion si on a des retours d'auditeurs intéressés pour pouvoir en discuter davantage, puisque l'émission prend son temps.
Exactement, nous aurons donc toute la saison pour recevoir, chorégraphe et danseur. Nous proposons une pause musicale et nous revenons juste après.
Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Les beaux yeux de Marilou, je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale, à bout de nerfs, j'avais plus un copec. Les jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec, et me rendait moitié coucou. Oh non, tu peux pas savoir, mec. Il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou. À la fin, j'y fis le caillou comme un melon. Une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, des mères encore, des clous. Ici ou dans la blanche écume Varec, sur la plage de Malibu.
Voilà, c'était Gainsbourg, hein, vous l'avez reconnu, avec l'homme à la tête de chou. Issu du titre de l'album L'homme à la tête de chou.
Et alors, pourquoi ce choix? Parce qu'il y a une raison quand même, Nathalie.
Oui. Les choix musicaux sont pensés et choisis par rapport aux thématiques de l'émission. Donc, L'homme à la tête de chou, parce que c'est en lien avec un spectacle de danse de Jean-Claude Galota, un chorégraphe français, qui a monté. Alors lui, c'est un chorégraphe qui est vraiment empreint de musique et qui a travaillé une chorégraphie autour de la musique de cet album de Gainsbourg, et qui a travaillé aussi avec Bachung, puisque on sait que Bachung a repris aussi cet album, enfin sur ces thématiques. Et voilà, donc c'est un spectacle qu'on peut voir en France, un peu partout en France, à Paris, en ce moment. C'est pour montrer le lien qu'en danse contemporaine, voilà, c'est vaste, c'est diversifié, et on peut s'attacher à la musique comme on peut s'attacher aux arts plastiques.
Eh bien, nous passons maintenant au théâtre russe d'aujourd'hui. On avait déjà un peu touché du doigt le mois dernier le théâtre russe.
Mmh, oui, parce que bon, vous l'avez peut-être remarqué quand même, depuis le début de l'émission, c'est quand même un vent d'est qui souffle sur notre sur nos choix, enfin sur nos choix de présentation et de spectacle. On avait parlé de Tchekhov en lien avec la Cerisée, puis comme on est quand même dans un mois plutôt Europe de l'Est, hein, dans la région, j'avais envie de vous parler, je trouvais intéressant de vous parler du théâtre russe aujourd'hui. Donc après avoir parlé de Tchekhov, grand classique, auteur majeur, qui a vraiment transformé aussi l'écriture hein, théâtrale, hein, ce qu'il en était aujourd'hui en Russie. On avait vu avec Tchekhov hein, que la Russie avait développé des artistes vraiment très impliqués socialement. Hein. Tchekhov était médecin et puis il pensait vraiment la capacité de l'homme à sortir de sa condition sociale. Bon, voilà, c'était quand même des démarches fortes. Puis est arrivé eh bien le communisme hein, où là on a eu vraiment une chape de plomb sur toute la création individuelle et indépendante en Russie hein, puisque les artistes connus et reconnus n'étaient que des artistes d'État. Voilà, on ne pouvait pas montrer en public quelque chose qui n'avait pas été validé timbré comme j'allais dire par le gouvernement.
Par le parti.
Et
du coup, c'était un théâtre financé.
C'était un théâtre d'État financé, très hiérarchisé, structuré, avec un maillage sur le territoire très intéressant, parce que c'est plus de 600 théâtres d'État qui existent en Russie, mais qui ne donnaient que des répertoires classiques. Donc avec des troupes, des comédiens en permanence et qui jouaient plutôt des répertoires en alternance. Donc voilà, très, très figé. Mais en même temps, sur cette époque-là, à côté de ça, en parallèle, il y avait quand même toute une partie, tous des intellectuels de résistance et de la dissidence. Dans les plus connus, on connaît Solzhenitsyn, j'écorche à chaque fois son nom, ou encore Zinoviev ou Limonov, qui ont donc créé aussi une pensée civique importante, forte. Voilà, il y avait quand même une pensée contestataire et contradictoire en parallèle de la politique d'État. Et ce qui a forgé quand même une conscience chez les Russes très très forte d'un théâtre contradictaire.
Mais alors où se jouait ce théâtre de contradiction Donc en fait, les salles n'étaient pas les salles d'État pour le coup.
Ah pas du tout, c'était c'était ce qui était caché en résistance, non dit. Voilà, quand on lit Solzhenitsyn, enfin comment ces textes se passaient sous le manteau, voilà c'est du même ordre. Mais faut pas oublier que dans la tête des Russes, ça a créé quelque chose de très fort quand même, vraiment une pensée commune civique autour de ça. Et puis, en 90, eh bien, est arrivée la perestroïka, où là, tout a éclaté, c'est-à-dire qu'enfin, les intellectuels ont pu sortir et se libérer, en pensant dire, on va pouvoir montrer notre création, qui nous sommes. Donc, il y a eu une effervescence énorme dans les années 90, où la joie de l'expression libre. Donc on a eu pas mal, il y a eu pas mal du coup de studios théâtre expérimentaux qui sont créés un peu partout en Russie. Mais à côté de ça, existaient toujours les théâtres d'État, les 600 théâtres d'État qui continuaient à donner leur répertoire dans un système très 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 classique. Et puis après ce mouvement euphorique lié à la perestroïka, ça, la solidarité et l'investissement politique n'ont pas vraiment pu tenir face à la volonté aussi de divertissement. Donc les studios expérimentaux sont un petit peu essoufflés et puis les théâtres d'État ont été moins soutenus. Aussi, puisque le régime était moins fort. Et donc, on vraiment tournait vers des répertoires, on va dire, qui marchent, des spectacles faciles. Quand je dis ça, c'était plus facilement la comédie musicale, théâtre de boulevard. Et donc, ça laissait peu de place, finalement, à la création libre et indépendante.
peut-être aussi qu'au bout d'un moment, la création libre et contestataire, c'est lié aussi à un régime peut-être plus couvrant, voilà, plus dur. Mm-hmm. Effectivement, il y a peut-être moins de choses à mettre en avant quand finalement il y a la possibilité de le faire.
Oui. Et justement, quand la possibilité de le faire est là, finalement, le cadre, forcément, ne suit pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait la volonté, je pense, une énergie folle. La première étape était vraiment d'une libération. Après, il faut construire autour de ça. Et donc, ça n'a pas été évident. Pour des artistes complètement indépendants, de trouver un appui financier, un écho aussi du public à ce mode d'expression. Donc voilà, je prends l'exemple de Ivan Vipariev, qui était à Irkoutsk, qui est dans la démarche vraiment qui a 36 ans et qui est dans la démarche d'un metteur en scène totalement créateur indépendant d'aujourd'hui, en utilisant des formes nouvelles, hein, telles que la vidéo, le documentaire. Ben voilà, c'était trop fort, c'était trop le clash. Ça fait le clash par rapport aux habitants et aux structures, quand même fortement encore étatiques sur la culture. Donc, on va dire que c'est quand même un théâtre où le côté indépendant, alternatif, a eu du mal. Enfin, c'est fait par lui-même, comme tout mouvement alternatif. Donc du coup, on casse, on n'a rien à faire de ce qui existe, et on fait par soi-même. Donc on crée des petits studios, il y a le théâtre Point Doc notamment, et c'est là où finalement, dans le côté alternatif, on a des choses très très intéressantes. Et notamment, Vladimir Pankov. Je fais très vite. Pourquoi Vladimir Pankov? Parce que, justement, on va vous présenter demain soir à Louviers, au Théâtre du Grand Forum, il y a la noce de Vladimir Pankov. Alors lui, il a tous les talents. Enfin, il est musicien, comédien, metteur en scène. Il travaille par collectif. Il ne dissocie pas la musique du théâtre. Donc, dans sa noce, là, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il met en scène, il travaille avec une troupe nationale académique de théâtre biélorusse, et puis avec ses comédiens, son collectif totalement radical, musiciens, comédiens, chanteurs. Donc, ça va être une noce vraiment style jam session, vraiment. C'est comédien, partie musicale, et dans ces parties musicales, c'est l'accordéon, c'est la guitare hawaïenne, c'est le violon, c'est la contrebasse. Et on est quand même sur la noce, donc la noce de Tchekhov. C'est la première fois qu'il s'attache à un répertoire dit classique. C'est quand même l'histoire d'une noce, d'une fête qui part en n'importe quoi, avec tous ses déboires. Donc je pense que ça va être très intéressant.
On rappelle, quand est-ce qu'on peut l'avoir, cette noce?
Eh bien, demain soir, au Théâtre du Grand Forum, à Louviers, à 20h30, samedi, donc.
Très bien. Je propose une autre petite pause. Et pour le coup, quoi de mieux qu'une valse?
Thank you.
C'était donc une valse, c'est le marché des invendus de Nouvelle Nocturne. Groupe local d'ailleurs qui passe ce soir.
Ce soir au Moulin à Louviers.
Au Moulin à Louviers, voilà. Avec une entrée très abordable de 5 euros. Voilà, c'est juste pour... c'est plutôt abordable, oui. Voilà. Et une très belle salle d'ailleurs, le Moulin de Louviers.
Oui, très belle salle, très beau lieu, bâtiment aussi. On peut voir découvrir des choses nouvelles, des jeunes compagnies, c'est intéressant.
Nous parlions en début d'émission de la danse contemporaine. Mm-hmm. Justement, un spectacle, deux spectacles d'ailleurs qui tournent actuellement, qui sont Traces pour un public plus jeune, jeune public.
Jeune public, oui, enfants et familles.
Et In Time pour un public plus adulte.
Adulte,
ouais, voilà. Donc deux spectacles de danse contemporaine qui sont liés.
Qui sont liés puisqu'ils sont chorégraphiés par Paul Frenac, chorégraphe hongrois, franco-hongrois, qui commence à être connu sur en France. Encore un vent d'Est qui vient vers l'Ouest, puisque c'est un chorégraphe pour lequel, en tout cas à la scène nationale, Philippe de Roder, le directeur, a envie de faire découvrir vraiment aux spectateurs.
Je te propose, et je propose aux auditeurs d'ailleurs, que nous écoutions justement Paul Frenac, oui, que tu as rencontré.
Que j'ai rencontré, donc il ne pouvait pas être avec nous parce que justement le spectacle Traces pour enfants se joue là. Donc il était dans la préparation des danseurs. Et donc je l'ai interviewé et je vous diffuse, j'avais choisi de vous diffuser une partie.
On va en diffuser un très très court extrait.
Il est bavard, donc très très court extrait.
Pourquoi ce mot d'expression ?
La danse, c'est, pour moi, c'est une évidence, c'est une urgence de à la fois de une nécessité de survivre. Parce que bon, moi, j'ai vécu en langage gestuel. En seul coup, je me confrontais avec le verbal que je refusais. D'ailleurs, on me considérait comme un peu retardé. Mais parce que c'était, imaginez quand un enfant se font ses éducations pendant toute seule, et en seul coup, il se confronte à un climat très brutal où la verbalité est imposée comme une première manière de communiquer, l'école, tout ça. Moi, ça m'a plutôt handicapé, un peu bloqué. Et petit à petit, enfin plus tard, bien sûr, s'il faut que j'avoue, c'est assez personnel, c'est pas pour écrire, mais c'est moi, c'est devenu. Oh, la parole est devenue très tard pour moi, la parole est venue quand j'ai commencé la danse. C'est-à-dire, à travers la danse, ça m'a ouvert la voie de parler. Mais bon, c'est assez personnel, mais ça montre que c'est tous les vécus personnels, mais c'est quand même influencé beaucoup mon créativité et mon travail artistique, et notamment toutes mes créations, ils butent contre l'indifférence, c'est vrai. Quand on dit le thématique basique, c'est l'indifférence. Et après, c'est pour ça, moi je suis un peu comme Peter Brook, c'est vrai que moi j'aime bien cette idée d'arriver et donner un claque pour le public un tout petit peu, en disant, ça veut dire se brosser un peu, qu'il débarrasse toutes ces idées préjugés et qu'il arrive à se frosser un peu, paf, paf, droite,
vous
gauche.
Vous bousculez alors, vous.
Et qu'ils sont purement et librement à accueillir une nouvelle proposition d'image, d'esprit, de mouvoir. Et ça, c'est très important. Parce que mine de rien, excuse-moi, quand je voyage en Europe centrale, ils sont quand même un regard qui est encore plus neutre. Ils rentrent moins dans l'explication théorique. Bon, c'est pas une approche, c'est une observation. Quand je parle en Russie ou n'importe quel pays d'autre, ils sont moins. Ça veut dire, c'est bien. Moi, je suis d'accord, le texte, tout ça, il le lit après, mais pas avant, souvent.
Voilà.
Paul Frenac qui nous parlait de son parcours, d'où il vient et comment il en est venu à cette expression justement par le corps. Vraiment cette anecdote fondamentale pour lui, son parcours de création, c'est qu'il a grandi avec des parents sourds et muets. Donc sa première forme de communication et d'expression a été par le geste et non pas par la parole. Et c'est vraiment tout ce qui a structuré sa relation aux autres. En effet, c'est un fait marquant d'être, je crois, le huitième enfant d'une famille de sourds et muets, de malentendants. Et de ne pouvoir commencer à parler qu'au moment où il a été scolarisé. Et donc pour lui, c'est ce qu'il expliquait, ça a été vraiment mais la claque, une confrontation extrêmement brutale, que de passer à un monde peu parlant à un monde totalement où le verbal. Et là, c'était choc. Et du coup, c'est par le corps, par la gestuelle, qui a décidé, il a continué de choisir à s'exprimer et de façon créative avec ce mode d'expression.
La notion d'expression corporelle est très forte, voilà, dans ce qu'il disait.
Oui. Et tu voulais enchaîner peut-être avec le deuxième.
Par exemple, voilà. Donc toujours Palfrenac qui s'exprime sur le spectacle, la différence en tout cas entre le spectacle enfant et le spectacle adulte. Oui.
De ce qui est très intéressant dans le trace d'un jeune public, bon, ce que je disais l'autre jour, je suis désolé de dire ça, qu'il n'infantilise absolument pas les enfants, mm-hmm. il le prend comme une partenaire adulte, mm-hmm. mais absolument. Comme une partenaire qui arrive à penser, qui arrive à imaginer, et qu'il le sollicite justement encore de leur créativité et de leur imaginaire, voilà. Mm-hmm. Parce que justement, il n'est pas anecdotique, pas narratif. Il place le soutien un peu, il les aide par exemple avec une ambiance très aquatique. On a l'impression que c'est quelqu'un qui va aux piscines, qui fait des bêtises, qui tombe dans l'eau, qui sort. Mais en fait, ça peut être ça, mais à la fois, c'est beaucoup de choses différentes. Et ce qui est intéressant avec ce travail de Trask, à la fois, il travaille sur la verticalité et l'horizontalité. Ça veut dire les deux plans. Ça veut dire le danseur, au début, il commence très aquatique, comme ils sont dans l'eau. Ensuite, il arrive à verticalité, comme nous, habitude. Et ensuite, le troisième partie, il se lève et c'est rien. Alors, les enfants, ils voient en fait le poisson à vaseau. Et ça, c'est très intéressant à travers l'être, le développement humain et l'imaginaire est là, le poisson, le vaseau et au centre de le rencontrer une concrète histoire parce qu'ils ont vraiment mais c'est quand même c'est très tracé, c'est quand même sur un chemin, c'est tracé, c'est comme une empreinte, ce qu'il peut c'est une empreinte qu'on peut mettre, mais une empreinte qu'on peut le prendre, et c'est là que j'ai appelé trace. Et pour les enfants, mais souvent il y a des chemins très directifs, après c'est très libre. Enfin, et qu'est-ce que je peux dire sur quelle différence? Ben, la différence entre In Time et Trace, c'est quand même que Trace, c'est quand même une ambiance, un climat très, très, très intime. Ceci dit, une autre manière, In Time est très intime dans le sens de le développement imaginaire global, mais l'In Time, c'est intime dans le sens qu'il c'est pas du tout pareil, parce que In Time, il est intime dans le sens qu'il ramène l'être dans leur relation très proche. Mm-hmm. Et le spectacle et Trace, ce n'est pas la même comment on dit, ça passe pas sur le même. Trace, il passe sur un personnage qui revisite ses façades. Car In Time, ça passe dans le rapport humain, femme-homme, homme-homme, femme-femme, mère-fille, père-fils, physicalement, par exemple, il y a un trio à la fin où il y a deux corps, trois corps se fusionnent. Mais à la fin, l'idée pour moi, c'était pas du tout, enfin, un moment distant, les femmes-hommes, mais ce qui est intéressant, un peu dans ce trio à la fin, cette fusion, on perd, on dit mais on voit une seule chose, et souvent le peintre il me dit non, c'est assez réussi de fusionner trois corps, mais ce qui m'intéresse c'est comment on se fusionne avec l'autre, parce que tous les êtres cherchent un peu pouvoir avoir un partenariat avec son amour, enfin, je sais pas, être disparaître dans l'autre, l'autre faire disparaître en nous, enfin bon, tout ça c'est un peu mais c'est intéressant quand même. Ça veut dire que et de corporalité d'In Time est plus aussi en conflit aussi, car dans Trace, dans le jeune public, il y a un conflit, mais c'est avec un objet, mais on ne se tape pas dessus, parce que c'est quand même une seule personne qui visite ses capacités, mais dans l'In Time, il y a quand même les femmes-hommes qui racontent, il y a même des hommes-hommes, enfin, il y a quand même quelque chose qui monte de toutes les façades de vie en relationnel, relationnel psychique, physique, mental, âme, mais c'est, oui, en manière, un peu, de temps en temps, il y a des de matière assez, assez, vous dites, mais hop là, c'est quoi ça? C'est frissonne un peu. Ah oui, ça remue un peu.
Oui, ça remue. Oui, ça remue. Ben, c'est un peu comme le travail de la compagnie hein, qui développe une prise de risque très importante au niveau des danseurs. Et ce qui demande d'aller, pour eux, au-delà de leurs limites. Vraiment, c'est très, très, très acrobatique. Et pour arriver à dépasser ces limites, ben, il faut d'abord commencer par se connaître, connaître son corps et lui faire confiance. Donc, il travaille vraiment sur cela. En fin de compte, lui, c'est vraiment... on ne peut aller au-delà, donc au-delà de ses limites, que si on sait où l'on est et d'où on part. Voilà, là, c'est vraiment son principe de travail.
On propose aux auditeurs d'écouter un extrait musical
oui.
De In Time.
Non, c'est de Trace. Enfin voilà, c'est en fin de compte, il s'est appuyé sur une musique de Jeff Buckley pour ce spectacle, le début du spectacle, qu'on écoute. C'était Jeff Buckley, issu de son album My Sweetheart the Drunk, et c'était Opened Once. Voilà ce choix musical en lien avec le spectacle Trace, qui est lui-même un spectacle à voir en famille, mais aussi présenté pour les enfants. Et voilà, dans le spectacle vivant, l'enfant est un spectateur lambda. à part entière. C'est ce que nous disait Paul Fronac dans son interview, hein, quand je l'ai rencontré il y a 10 jours, non, une semaine, où là je l'ai rencontré lors d'une présentation faite à la presse, voilà, sur son travail et sa venue en région Haute-Normandie. Donc oui, Paul disait, là, je suis assez en accord avec ce qu'il dit, c'est que l'enfant est une personne. Une personne en tant que telle, et donc voilà, il ne faut pas du tout l'infantiliser, mais la respecter, lui parler comme à une personne, et pouvoir lui apporter par les spectacles, par le travail de création, aussi les capacités d'imagination, de réflexion autour d'une thématique, ou de sens, hein, de travailler aussi au niveau des sensations par rapport à ce qu'il voit.
Et puis c'est l'éducation aussi, à comment après en tant qu'adulte on va percevoir le monde qui nous entoure, même très globalement.
Oui, c'est bien sûr une ouverture. C'est une ouverture aussi sur la pratique culturelle, enfin une pratique de spectateur. C'est-à-dire que dans ma vie, enfant, je vois des spectacles, alors principalement avec mon école au départ, puisque une des premières démarches, c'est avec l'école, avec sa classe, mais pas seulement, aussi maintenant beaucoup de parents emmènent leurs enfants voir des spectacles, faire des activités, écouter des contes, donc c'est bien sûr une ouverture et une sensibilisation pour après aussi à sa pratique, une fois adulte, peut-être, d'aller plus facilement voir un spectacle et avoir justement une autre idée d'un spectacle de théâtre ou de danse, par exemple.
Justement, tu étais à la sortie du spectacle de Trace, où tu as rencontré une école. Enfin, en tout cas, des élèves et des professeurs.
Et des professeurs, voilà, donc qu'on va écouter juste après le spectacle.
On commence par l'entrée, parce que c'est,
oui,
c'est
raison,
une ambiance d'effervescence, c'est assez sympathique, oui. Aussi. On écoute l'entrée et on écoutera la sortie après.
Bonjour, alors vous venez voir le spectacle ?
Oui.
Moi je suis Nathalie, je travaille au Théâtre des Libres.
Je vais soutenir le théâtre.
Tu es déjà allée au théâtre ?
Ici.
Ici, donc c'est pas ton premier spectacle ?
C'est pas mon tout premier spectacle. C'est mon troisième spectacle parce que j'en ai déjà fait un pour ma danse.
Ah, et là tu jouais ? J'étais sur le plateau.
J'étais sur le plateau, je jouais.
Mais en tant que spectatrice ?
J'ai regardé deux, ça c'est mon deuxième.
Donc deuxième. Et tu te souviens les deux autres ? Tu te souviens le premier ?
Non.
Non.
J'avais un déguisement.
Ah.
C'était une coccinelle.
Mais ça c'est ton spectacle quand tu étais, mais un spectacle où tu as regardé.
Ah non, je m'en souviens plus parce que c'était il y a longtemps.
Ah, d'accord. Et là tu peux me dire le spectacle, le titre du spectacle que tu vas voir ? Trace.
Trace, oui.
On verra les impressions.
D'accord.
À la fin, d'accord, on verra les impressions. Ça marche ?
Moi, je savais qu'on allait regarder Trace, parce que là-bas, j'avais vu des annonces Trace.
Tu avais vu les annonces, tu as vu les affiches ?
Oui, j'ai lu.
Là, vous êtes dans quelle école, les enfants ?
C'est
Guichainville.
Guichainville.
Guichainville. Et vous êtes dans quelle classe ?
CPCE1.
Nous deux c'est PCA et eux c'est...
Moi c'est CE1 et lui c'est CP.
D'accord. Voilà, des CP et des CE1 qui se préparaient à rentrer pour aller suivre le spectacle.
Oui, qui étaient déjà installés en salle et qui attendaient le début du spectacle.
Il y a quelque chose qui est ressorti de cet échange plus particulièrement. C'est vrai qu'on parle de culture quand on parle de danse contemporaine, quand on parle de théâtre, de spectacle, mais avant tout, et ça la petite fille nous l'a bien fait sentir, il y a une notion de plaisir tout simplement.
Ah oui.
C'est vraiment qu'est-ce qui l'a marqué elle quand elle est montée sur scène, son déguisement de coccinelle. C'est du plaisir et c'est énorme.
C'est du plaisir et puis on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. Pour l'exemple de cette petite fille, c'est ce qu'elle a vécu, c'est marquant et c'est là. Voilà, donc il s'est vraiment passé quelque chose pour elle à ce moment-là d'important dont elle a la trace et le souvenir. Et puis le plaisir, évidemment que le spectacle vivant, la culture, la création, heureusement, il y a beaucoup de ça. Il n'y a pas toujours que ça, mais fondamentalement, il y a de ça.
On écoute ce qui se passait à la sortie du spectacle.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire de quelle école vous venez, enfin, où vous enseignez, puis ce que vous êtes venu faire ce matin à la maison de quartier de la Madeleine?
Donc, nous venons de l'école de la Bonne Ville, l'école La Forge de la Bonne Ville sur Éton, et nous sommes venus assister à un spectacle ce matin à la salle.
D'accord. Et vous êtes venus avec quelle classe aujourd'hui?
Il y a une classe de CPCE1 et une classe de CE1.
Et une classe de CE2 et une classe de CP.
Donc
il y a quatre classes.
Vous êtes venus nombreux.
Oui, quatre classes. D'accord.
Et donc c'était votre premier spectacle de la saison? Vous êtes déjà venu voir des spectacles?
L'année dernière, oui.
D'accord.
Cette année, c'est le premier de la saison.
Oui, en effet, parce que c'est le premier programmé.
Oui.
Et alors, vos impressions?
Pour l'instant, un peu mitigé. Je crois que nous a manqué. L'année dernière, nous avions eu une petite formation, une animation pédagogique sur chaque spectacle qui nous avait permis de faire participer un peu plus les enfants. Là, c'est vrai que ça nous a un peu manqué, je pense. Qu'on a raté des choses sur le spectacle.
Et cette année, elle n'a pas eu lieu avec l'inscription.
Voilà.
D'accord. Okay. Je pense que c'est un spectacle très visuel. Il y a beaucoup de choses à prendre pour l'enfant.
Oui. Je pense que si on avait pu les préparer un petit peu, ils auraient pu s'adhérer encore. Là, certaines choses leur ont plu, d'autres un peu moins. Mais je pense que si on avait pu effectivement leur expliquer un peu plus ce qui allait se passer et pas leur dire seulement que ce sera une chorégraphie, ils auraient été un peu plus attentifs que là.
Je comprends, ça rentre dans le fait de la préparation, justement, voilà, de la classe, l'enfant au spectacle. On n'y vient pas comme ça.
Je pense. On peut, sur certains spectacles, c'est possible.
Il y a certains spectacles où l'enfant découvre quand c'est facile à comprendre, quand il y a des choses suggérées et pas vraiment évidentes.
Oui, parce que là, c'est suggéré par le corps.
Voilà, hein. Oui. Donc, ils sont un peu petits, peut-être, pour entrer directement là-dedans.
Bien. Bah, je vous remercie, je vous laisse partir.
Merci.
Merci. Au revoir.
Des réactions à chaud. C'est intéressant sur la notion de préparation, justement, de pouvoir parler. On ne vient pas au spectacle comme ça, mais on a besoin d'en parler, de savoir l'ambiance et ce qui va se passer.
Un autre spectacle donc dont nous voulions vous parler à destination de la jeunesse.
Voilà, donc Boucle d'or et les 33 variations à partir du mi-novembre. Là, c'est un art visuel, c'est vraiment le côté, ça touche les variations. D'ailleurs, on entend derrière nous les variations Diabelli. Et c'est l'histoire de Boucle d'or, mais en 10 versions différentes. La compagnie, elle travaille vraiment cette thématique-là. Et c'est un enjeu parce que ça joue sur les ombres et les images, ou alors une lecture du conte avec des effets optiques, ou si la musique est très, très, très présente, puisqu'il y a un piano en direct sur le plateau qui joue justement les Diabelli de Beethoven. Donc, c'est un spectacle très visuel. Qui a pour base l'histoire de Boucle d'or. Au passage, quand même, Boucle d'or, c'est un conte incroyable, puisque c'est quand même savoir une petite fille, l'héroïne, on ne sait rien, on ne sait pas d'où elle vient de nulle part, et elle rentre dans cette maison, et elle s'enfuit, elle repart vers l'inconnu, après avoir tenté de trouver sa place, vraiment, dans cette maison des ours. Donc c'est très, très énigmatique comme conte. Voilà, donc spectacle, on fait très court, spectacle visuel autour des variations de l'histoire de Boucle d'or.
Je propose qu'on écoute un petit peu de ces fameuses variations des Diabellis de Beethoven.
Diabellis de Beethoven.
Thank you.
Gabelli de Beethoven.
De Beethoven, voilà, c'était musique classique. Peut-être l'agenda ?
Eh bien, voilà, il nous reste très peu de temps avant de vous souhaiter un bon mois.
Voilà, donc on a parlé donc la noce demain à Louviers au Théâtre du Grand Forum par Vladimir Pankov. Mardi 9 novembre à 20h30, toujours au Théâtre du Grand Forum à Louviers dans la programmation de la scène nationale In Time de Palfronac. Et puis à la chapelle de la Cavée Boudin également, la dernière création du Méga Bobek avec Olé Beaujour de Beckett, qui se joue à partir du 16 novembre. Et là, vous aurez le temps, on en discutera aussi en décembre, à la prochaine émission, puisque ça se joue jusqu'à début décembre. Et en théâtre, Oncle Vania également, pour terminer la trilogie Tchekhov, le 20 novembre à 20h30, Théâtre du Grand Forum à Louviers principalement. Et boucle d'or, et ses variations à partir du mercredi 17 novembre. Voilà pour l'agenda. Et puis ce soir également au Moulin, vous pouvez assister au spectacle de Nocturne.
Nouvelle Nocturne.
Voilà pour l'agenda, spectacle vivant sur Évreux et Louviers.
Eh bien, nous arrivons à la conclusion de cette émission, Nathalie.
Et oui, ça passe extrêmement vite. Et je pense qu'on vous a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. C'était assez varié, éclectique. Bon, j'espère qu'on aura su vous intéresser, vous faire découvrir des choses, ou en tout cas vous faire rencontrer des gens. Parce que la philosophie de cette émission, c'est aussi prendre son temps, mais c'est de vous raconter des histoires sur des personnes, sur des artistes, vous faire sentir un peu d'où ils viennent, quels sont leurs univers, et puis pourquoi à un moment ils sont mis à créer. Voilà.
Pour rester en contact avec l'émission jusqu'au mois prochain, donc prochain rendez-vous c'est le 6 décembre, à midi et demi,
et là on vous parlera de cinéma entre autres, mais avant cela vous pouvez nous retrouver sur le site internet
de Principe Actif, à la page Scène de Vie. Et puis, dès cet après-midi, vous pourrez retrouver le podcast de l'émission pour réécouter l'émission ou la faire découvrir à quelqu'un d'autre, allez savoir.
Voilà, donc après, des liens également, si vous êtes intéressé par le théâtre russe, il y a un très beau site internet, théâtrerusse.com, où là, vous avez un peu vraiment le détail du théâtre aujourd'hui, ce qui se crée en Russie. Et puis, la compagnie Palfronac a également son site sur internet, pal.fronaccompagnie.
Eh bien, on vous dit au 6 décembre.
Je vous dis au mois prochain, 6 décembre. Et puis, bonne écoute sur Principe Actif d'ici là.
Et bonne sortie
au spectacle vivant, tout à fait.